Bonjour et bienvenue à cette présentation. Donc je vais parler aujourd'hui d'un outil de sécurité sceptique qu'on a développé en interne au sein du groupe Amadeus et qui permet de détecter des cas d'utilisation frauduleuse d'une application. Et tel que je l'expliquais, donc, cet outil s'appuie donc sur l'apprentissage et sur le profilage, on va dire, des usagers. Ça permet de modéliser en fait leurs habitudes et à partir de là, donc, de détecter ou identifier des sessions qui seraient potentiellement frauduleuses. Donc, merci pour l'introduction. Donc, rapidement, je suis expert sécurité pour le groupe Amadeus depuis 4 ans. Je suis aussi en charge de la direction technique de l'application SOC. Donc, nous avons pas mal d'activités, celles qui nous intéressent plus particulièrement ici pour cette présentation. C'est donc les solutions de détection de fraude et leur intégration dans les systèmes de type CIEM. Donc, ma présentation est en 4 parties. Donc, je vais commencer par une brève introduction sur l'analyse comportementale et les motivations. Ensuite, je vais vous parler de l'architecture de notre solution. Je vais suivre par des résultats, donc 2 cas d'études que nous avons effectués, l'un sur des données synthétiques qui nous ont été fournies par un partenaire, qui est présent aujourd'hui d'ailleurs, et un autre cas d'étude sur des données à nous, puisqu'on utilise en fait Sceptic au jour le jour pour identifier des fraudes. Et en fait, je vais conclure. Alors, commençons par UBA, donc ce que c'est UBA, donc quelle est la motivation d'abord. Alors la motivation, c'est, j'ai pas inventé grand chose, hein, c'est que ça commence par admettre qu'il y a un problème. Alors le problème, c'est que les attaques aujourd'hui, en tout cas les attaques modernes, se focalisent principalement sur les applications, un peu moins sur le réseau, même si bien sûr il y en a encore. Pourquoi ? Parce que les applications web sont prévalentes déjà et elles deviennent de plus en plus complexes, donc ça ouvre une surface d'attaque qui est de plus en plus grande. Donc vous voyez le nombre de records à droite, c'est une capture d'écran récente, le nombre de records qui ont été volés lors de brèches depuis 2013, donc on approche les 13 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est que selon le rapport d'investigation des brèches de Verizon, donc de 2017, il semblerait que dans 63% de ces brèches, il y ait eu en tout cas une implication de compromission d'identifiants. Donc les cas typiques de usurpation des usagers. Donc on voit que les fraudeurs en fait s'appuient sur des scénarios d'attaque qui ne sont pas forcément sophistiqués, mais en tout cas qui impliquent dans la plupart des cas une impersonation, donc une usurpation, parce que c'est le cas sans doute le plus facile, et ça permet surtout d'échapper à tout ce qui est système de prévention classique qui s'appuie sur des règles. On voit aussi que on a de plus en plus d'attaques qui sont robotisées, on va dire, donc telles que le credential stuffing, qui consiste à faire du brute force, mais avec un faible débit. Donc du coup, en partant de ce constat, on peut dire que les systèmes de prévention de fraude modernes devraient également s'adapter. Donc s'adapter pour prendre en compte donc, cette dynamique, ce paysage, on va dire, au niveau fraude, et s'appuyer donc sur, enfin plus s'habituer sur, s'appuyer pardon, sur l'analyse des comportements plutôt que sur des règles statiques. Donc UBA c'est quoi ? Donc c'est User Entity Behavior Analytics. Donc ça consiste à profiler des usagers et à construire une sorte de baseline, donc une référence. Et à partir de cette référence, ça permet à cette solution, enfin ce genre de solution, de détecter des déviations qui sont non standards et qui potentiellement sont liées à une malutilisation, donc une utilisation en tout cas frauduleuse. Donc, tel que je vais montrer, pour profiler ou pour faire de l'apprentissage, il faut bien sûr s'appuyer sur des techniques de type machine learning, même si le terme est un peu vague. Donc, je vais vous montrer que nous, on a choisi une approche qui est non supervisée, en partant du principe qu'on n'a pas de données labellisées. Donc, les cas d'utilisation typiques, c'est celui de l'escalation de privilèges, tel que j'ai dit auparavant, celui de la compromission des credentials, le takeover, donc le vol des identifiants, et tout cas d'utilisation frauduleuse, donc le misuse, on va dire, qui peut passer aussi par des menaces venant de l'intérieur, donc par exemple des insider threats, donc les employés, par exemple, qui feraient une utilisation non enfin, un petit peu frauduleuse de systèmes d'information. Donc on voit également quelques tendances sur le marché et dans l'industrie. On voit que Gartner même a commencé à publier un guide d'achat pour ces technologies. Pareil, donc on a Nudata Security qui est spécialisé là-dedans, qui a publié un article sur le futur de la prévention de fraude. Qui montre vraiment que ces techniques comportementales sont vraiment utiles. Néanmoins, on observe aussi que le marché est fragmenté. Donc on pourrait dire, mais pourquoi, si les éditeurs commencent à développer autant de solutions comportementales, pourquoi est-ce qu'on irait développer notre propre solution interne? Mais ça va, en fait, tel que je vais vous le montrer, premièrement, le marché est fragmenté, et deuxièmement, ces solutions ne sont pas magiques. Il faut les intégrer, il faut les adapter à votre propre système, et parfois, l'effort d'intégration est aussi grand que de développer soi-même. Donc, je vais passer maintenant à l'architecture. Donc, on est parti sur des requirements qui étaient relativement simples, on va dire, ou clairs. Premièrement, on voulait un framework de détection d'anomalies qui soit générique, donc dans le sens que ça peut s'adapter à n'importe quelle application, et peu importe aussi le genre d'attributs ou de caractéristiques. Donc, quand on développe ses propres systèmes d'information, forcément, on va loguer certaines informations qui peuvent être non standards. Donc, si on prend une solution, je vais dire du marché, parfois c'est pas simple, on va dire, de l'adapter. Alors, deuxièmement, il faut que la solution puisse prévenir donc, les cas de mal utilisation que j'ai cité, que j'ai en fait déjà cité, hein, donc takeover, donc le vol de compte et la compromission. Ça doit pouvoir fonctionner, donc comme j'ai dit, avec n'importe quel type de log au niveau applicatif, de manière non intrusive, donc ça veut dire sans devoir l'intégrer, sans avoir une intégration forte au niveau de l'application, donc sans devoir changer du code. Donc c'est une approche qu'on a adoptée qui est non supervisée, parce que même si on avait des cas de fraude qui étaient remontés en interne ou en externe, on n'a pas aujourd'hui vraiment, on ne dispose pas de suffisamment de données pour pouvoir faire du supervisé. Et surtout, on doit pouvoir avoir une solution qui s'adapte, donc qui s'adapte à des attaques qui peuvent changer. On voulait aussi une approche qui n'est pas binaire, mais qui est basée sur, comme je vais le montrer, sur un score de risque. Donc, c'est vraiment un score de risque qui est calculé, entre 0 et 100, par exemple, et une approche qui est ouverte, donc de type white box, et non pas un algorithme qu'on ne comprendrait pas, qui nous donnerait peut-être des résultats, certes, pertinents, mais qui ne permettent pas aux opérateurs d'expliquer ou de comprendre. Donc vous avez vous avez le schéma qui est assez clair, je pense. Donc vous avez à gauche les usagers. Ensuite, donc nous, on a principalement des systèmes d'information qui sont basés sur le web. Donc ils passent par Internet, ils créent des user sessions et on stream en fait les logs de l'application vers notre système qui apprend donc en continu et qui détecte après un certain temps quand on a suffisamment de modèles ou qui soient assez précis. On va passer en mode de prévention et donc là le score de risque est envoyé vers un autre module qui est en charge de prendre une intervention en fonction justement de la sévérité. Donc parfois, si la sévérité n'est pas trop élevée, on peut simplement demander à l'utilisateur de se réauthentifier ou lui envoyer une sorte de captcha, ou une sorte de challenge, ou une question, par exemple, sécurité. Si le score est très élevé, on peut demander à l'application de dropper cette session, voire même de bloquer le compte. Donc, en plus de détails, je vais aller rapidement ici, mais à gauche, vous avez donc la phase de profilage, on va dire, d'apprentissage, donc où on va extraire à partir des logs de l'application, on va reconstruire donc les sessions des usagers, et ensuite, sur base de ces sessions, donc il faut vraiment avoir une vue d'ensemble sur ce que les utilisateurs font durant une même session. On va en collecter, bien sûr, pendant un certain temps. Et ensuite, on va extraire donc, des attributs sur base de ces sessions qui vont servir comme input à des modèles. Donc, on va utiliser différents modèles en fonction du type d'attributs qu'il faut modéliser. Donc, si c'est des attributs numériques, bon, c'est très simple. On peut utiliser des méthodes statistiques assez simples. Si c'est des attributs catégoriques, bon, on va utiliser peut-être un autre modèle. Ça peut être très simple comme très complexe. On peut faire également du Markov, on peut faire du GMM, enfin des choses comme ça. Par exemple, pour les séquences d'actions, il faudra forcément utiliser un algorithme qui est capable de modéliser au mieux une séquence d'actions, une séquence de choses, on va dire, d'objets différents. Et à droite, après, on passe dans la phase de scoring. La phase de scoring qui consiste à comparer donc les nouvelles sessions qui arrivent au fil de l'eau par rapport aux modèles qui ont été appris. Alors, la deuxième intelligence qu'on ajoute donc dans cette solution, c'est la phase par laquelle on combine, en fait. Donc, on agrège les différents scores. Donc, vous voyez, il y a différents scores qui sont générés par rapport à chaque feature. Disons, chaque score est normalisé, bien sûr, entre 0 et 100. Et grâce à des méthodes qui sont utilisées aussi dans l'aide à la décision, donc ça s'appelle du multi-criteria decision analysis, donc c'est de l'analyse décisionnelle, on va modéliser de l'expertise. Donc, c'est-à-dire, on va dire, il me faut au moins 3 scores qui soient élevés, et le score qui correspond à la feature 1 est 2 fois plus important que le score qui sera remonté par rapport à la feature 2. On peut même, par exemple, faire des dépendances. On peut dire qu'il y a une synergie entre 1 et 3, tandis qu'il y a une redondance entre 2 et 4, par exemple. Donc tout ça permet de ne pas faire une simple somme ou une moyenne, mais plutôt de faire remonter des cas qu'on veut vraiment voir par rapport à des faux positifs. Donc un exemple très simple avec un usager légitime qui fait donc le login, qui fait des actions et qui après le logout. Donc on a toute une série d'informations sur cette session, donc session ID, l'IP, l'endroit à partir duquel il se connecte, les credentials, ainsi que une tranche horaire. Donc à partir du moment où un attaquant va essayer d'usurper cette identité, donc peut-être qu'il y a des attributs qui seront valides, par contre il faudra vraiment qu'il limite à la perfection le comportement de cet usager afin de ne pas générer d'alerte par rapport à cette session. Donc ça c'est un cas très très simple. Alors au niveau technique, on a implémenté cette solution à l'aide de Kafka comme mandataire pour les logs. Ensuite, notre solution est basée sur Spark. On a dû prendre du big data vu la volumétrie, parce qu'on a, pas mal de données, en fait. Vu le nombre de clients que l'on a dans le monde entier, les agents de voyage, les compagnies aériennes, etc. Donc, c'est des centaines de milliers, en fait. Donc, les logs sont assez volumineux. Donc, on a implémenté tout ça à l'aide de Spark. On y a ajouté un moteur de règles pour les cas triviaux, parce qu'on n'a pas besoin de machine learning pour des cas triviaux. Un brute force attaque, par exemple, c'est pas très très difficile. Il ne faut pas vraiment le machine learning pour ça. Et enfin, on a des dashboards à l'aide de Kibana et Elasticsearch, qui permettent aux opérateurs ainsi qu'aux experts fraude de revoir donc les différentes alertes. Donc les deux cas sur lesquels on a testé, enfin on a plus que ça, mais les deux cas du papier en tout cas, il y en a un qui est un scénario fictif qui a été fourni par un partenaire, dans lequel c'est un scénario assez typique qui simule un réseau de systèmes d'information d'une entreprise avec des employés, une centaine, avec des équipements, des flux internes, externes, avec une partie réseau social externe, bien sûr, avec un hacker donc, qui est identifié par le HH, ainsi que son équipement, donc le EQHH qui est en haut. Et en fait, c'est un cas typique de ciblage, criblage, hein, comme on dit, donc du hameçonnage, un hacker qui usurpe l'identité d'un employé et qui envoie un email avec une pièce jointe qui est piégée à un employé qui est vulnérable, on va dire, en tout cas, qui n'est peut-être pas vulnérable, mais qui va peut-être cliquer un peu trop vite. Du coup, sa machine va être infectée, sa machine va commencer à scanner à partir de l'intérieur le réseau interne et va tomber sur un équipement vulnérable à son tour, donc qui est le EQVU1, gauche, en bas à gauche. Et donc il va infecter cet équipement vulnérable et à partir de là, une autre anomalie qui va se produire, c'est bien sûr le hacker qui se connecte du coup sur cet équipement. Donc c'est identifié par le BI1A3. Donc ça, c'est les anomalies que ce partenaire s'attendait à ce qu'un éditeur de solutions UBA, digne de ce nom en tout cas, devrait être capable de trouver. Vous voyez ici quelques exemples de données, donc très simples en fait, c'est des données plutôt réseau. Donc on a dû adapter un petit peu notre solution parce qu'à la base elle n'était pas prévue pour ça. Elle était prévue plutôt pour des logs plus complexes on va dire. Mais bon, on a relevé le défi. Donc on a modélisé donc les tranches horaires, on a modélisé les activités en fonction du jour de la semaine. On a modélisé donc la destination, le type de protocole avec ou sans port. Il y avait des données méta, mais qui apparemment ne devaient pas ou ne pouvaient pas être utilisées, ainsi que la taille de la pièce jointe. Donc vous voyez, après, c'est des modèles assez simples, mais la force de la solution, c'est plutôt dans la combinaison. Donc c'est la manière dont on assemble, dont on combine en fait plusieurs signaux potentiellement faibles ou relativement faibles. Et après, donc, l'autre intelligence, c'est de comment est-ce qu'on combine. La manière de combiner, d'agréger donc, tous ces scores qui peuvent se faire en plusieurs étapes. Donc, on peut faire des sous-groupes, par exemple un sous-groupe avec un action score qui combine le type de protocole avec le port, les informations méta et la taille de la pièce jointe. Et donc pareil pour les autres attributs. Donc ça peut se faire en plusieurs étapes. Donc tout ça, c'est configurable. Ça dépend de l'application, ça dépend des logs. Donc c'est les experts. En fait, ça permet aux experts justement d'injecter leurs connaissances sur le système qu'il faut protéger. Et donc, parmi les trois incongruités comportementales qu'il fallait identifier, notre système a été capable d'en identifier au moins deux, avec un score assez élevé, donc 90 et 1. Donc le premier, le 90, est dû à un pic d'activité anormale. Donc ça c'est simplement l'équipement de l'employé qui a été compromis, qui a commencé à scanner. Donc c'est un scan réseau, bon, c'est relativement trivial, mais la solution a été capable de la mettre en évidence. Et l'autre, c'est le hacker qui se connecte sur l'équipement vulnérable qui a été infecté, vu que c'est une connexion qui n'avait jamais été vue auparavant. Bon. Et le premier, c'est la réception du document avec la pièce jointe piégée, où on a un score de 70, mais qui est, bon, qui est pas hyper élevé, mais qui est peut-être suffisant pour qu'un opérateur puisse revoir donc, cette alerte. Alors l'autre cas qui est sur des données réelles de production, donc comme j'ai dit, c'est sceptique, on l'utilise tous les jours. On continue de le fine-tuner, mais il est déjà en production sur certains marchés. On l'utilise pour identifier des cas d'utilisation frauduleuse sur notre plateforme fournis aux agences de voyage. Donc, actuellement, il est déployé sur plusieurs marchés, là où on observe le plus de fraude, bien sûr. Donc, c'est une plateforme en fait qui permet aux agences de voyage d'aider le voyageur à faire une réservation. Donc, il y a toutes sortes de contenus, hein, où, quand comment est-ce que vous voulez voyager, etc. Donc, c'est une application web traditionnelle. Donc, vous voyez donc, tous les attributs, enfin peut-être pas tous, mais les plus importants, qui sont dans les logs de l'application, que l'on stream donc, vers Skeptiq. Donc, on utilise l'IP, bien sûr, mais aussi la géolocalisation, les informations sur l'utilisateur, telles que son Office, par exemple, des informations sur son navigateur, donc le type de navigateur, l'OS, ensuite les actions, donc vraiment l'activité durant une session, la durée de chaque session, le nombre de requêtes ou le nombre de transactions par minute, les tranches horaires pendant lesquelles ils se connectent, ainsi que le nombre de sessions. Et donc vous voyez les modèles statistiques utilisés dans la troisième colonne à droite, relativement classiques, donc c'est un peu moins sexy que le deep learning, certes. Après, grâce à la combinaison de nouveau à ces différents modèles, qui parfois certains vont se déclencher, d'autres pas, mais grâce au fait qu'on agrège tout ensemble, c'est assez efficace. Et donc, ça permet de détecter les anomalies qui sont indiquées à droite, donc les connexions sur des comptes à des moments inappropriés, en tout cas qui sont inhabituels par rapport à cet usager. Un comportement inhabituel également par rapport aux actions et des anomalies par rapport aux origines. Et donc, en fait, on a fait un test pendant 3 mois. Donc, on l'a laissé tourner pendant 1 mois pour apprendre. Donc, ça, c'est l'apprentissage. Et on l'a utilisé pendant 2 mois pour détecter des sessions frauduleuses. Donc, vous voyez le nombre de requêtes par jour. Donc, juste pour vous donner une idée de la volumétrie, c'était sur un seul marché, je pense. Sinon, c'est beaucoup plus que ça. Donc, 6000 requêtes par jour, 3000 usagers, 6600 agences de voyage et 30 000 IP. Et le résultat est assez encourageant, car on a pu identifier, donc, par jour, c'est environ 10 sessions suspectes. Donc, pas forcément des fraudes, mais en tout cas suspectes, pour lesquelles le système nous remonte en tout cas une alerte. Donc, ce n'est pas encore délirant par rapport au nombre de sessions qui sont traitées. Et on a pu identifier 3 cas parmi 4 qui ont été confirmés par la suite comme des vrais positifs, donc c'est-à-dire des vrais cas de fraude, tels ceux que l'on voit régulièrement. Les agents de voyage, malheureusement, certaines agences sont assez petites, n'ont pas une grande connaissance en informatique. Et donc, se font piéger régulièrement ou facilement. On a observé qu'il y a d'ailleurs 2 types de communautés. Il y a une communauté qui consiste à faire du hameçonnage, qu'on a déjà, on a pu identifier parce qu'il y a souvent les mêmes IP, les mêmes régions qui reviennent. Donc, on dirait qu'il y a une communauté de hackers qui s'occupe du hameçonnage et une autre communauté qui s'occupe de la fraude. Et en tout cas, donc, notre système a pu en identifier 3 sur les 4 sur les 2 mois sur lesquels on a testé, donc ce qui est encourageant, je pense. Surtout que le nombre de faux positifs n'était pas trop élevé. Donc voilà, donc, l'analyse des faux positifs a révélé qu'il y a encore des choses à améliorer. Bien sûr, les usagers peuvent voyager, ils peuvent se connecter à partir de proxy anonymes. Donc en fait, tout ça, on le sait bien. Et ça peut générer, bien sûr, des faux positif qu'il faut en fait traiter. Il y a le problème aussi de l'apprentissage. On ne peut pas passer en phase de détection avant qu'un usager ait effectué un certain nombre de sessions, parce que sinon c'est pas vraiment pertinent. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, ce qu'on travaille actuellement, c'est de lui assigner une série de modèles standards en le rapprochant d'un groupe d'autres usagers qui sont similaires. Voilà, donc quand il y a un nouvel usager, enfin, à ce moment-là, on dit bon, il doit être similaire au niveau de comportement à tel autre utilisateur. Donc du coup, on va utiliser ces mêmes modèles pour déjà commencer à le protéger. Et voilà, donc les conclusions. Donc, on voit que UBA, donc l'analyse comportementale, peut vraiment aider à renforcer la sécurité de l'application en profilant justement les activités des utilisateurs. Et ça permet justement de tenir compte de l'aspect dynamique de ces attaques. Donc, un fraudeur va devoir vraiment mimiquer à la perfection un autre utilisateur pour passer au travers de cette solution. Donc, les éléments clés, c'est vraiment donc, l'aspect donc, non supervisé. Parce que bon, peut-être qu'après un certain temps, on aura assez de données labellisées, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il nous fallait absolument une approche qui peut nous remonter déjà des alertes sous base de choses suspectes, on va dire, sans devoir faire vraiment de learning. Le scoring model qui doit être approprié et qui doit être fait de manière intelligente. Et l'extensibilité, donc ça c'est important, parce que si on a des nouvelles applications où on commence à loguer donc, des nouveaux attributs, ça permettra de les rajouter. Alors les futures extensions, on y ajoute un moteur de règles hybride afin de combiner donc la force des systèmes experts tels qu'on les connaît avec l'approche comportementale. Et on a un projet européen dans lequel on travaille avec des partenaires sur la visualisation. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, heureusement, il y a l'écran qui est assez grand. Donc on a un projet européen qui s'appelle DICIM, dans lequel des partenaires spécialistes dans la visualisation nous aident à développer justement des systèmes pour visualiser les comportements des usagers de manière rapide et surtout d'identifier rapidement les alertes ou les déviations suspectes. Et donc ça permet de le faire de manière multi-échelle, multi-perspective, et de faire une comparaison également. Donc dès qu'on a une alerte, ça permet de comparer cette alerte et de comprendre pourquoi cette alerte a été levée, c'est-à-dire pourquoi, par rapport au comportement habituel, pourquoi cette alerte, quels sont les éléments qui ont mené à la construction de cette alerte. Donc ça c'est une première perspective, une autre où on a des diagrammes en cordes, on a du clustering, on a plein de choses qui sont vraiment sympas. Donc c'est pas le topic actuellement, c'est juste pour vous montrer sur quoi on travaille. Et donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site web du projet européen pour en savoir plus. Donc voilà, et avec ça, je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre.
Merci Olivier. Donc rapidement, on va prendre une question au troisième rang, milieu.
Bonjour, merci pour cette présentation. Votre outil permet de faire un profilage des différents utilisateurs. Je voudrais savoir comment vous intégrez les contraintes de la RGPD dans votre profil, au niveau des droits d'accès, de rectification de tous les utilisateurs, d'obligation d'effacer les données au bout d'un certain temps et tout ça.
Oui, c'est évidemment un très bon point. Donc, en vue de la RGPD, évidemment, on est obligé d'anonymiser les informations propres à chaque utilisateur. Donc, on ne voit pas le vrai nom, on voit qu'un identifiant. Après, si on suspecte une fraude réelle, à ce moment-là, il faut passer, bien sûr, par un DPO, donc par le Data Privacy Officer, pour avoir une autorisation pour aller rechercher les vraies informations de cet utilisateur. Mais les adresses IP ne sont pas encore anonymisées par contre, mais ça je pense qu'au niveau RGPD ça pose un peu moins de problèmes.
On a une question à droite, un petit peu là, de ce côté droit en haut.
Merci pour votre présentation. Comment est-ce que vous gérez l'éventuelle introduction d'une attaque durant la phase d'apprentissage ?
Oui, on y a pensé également, c'est un bon point. Alors, notre vue là-dessus, c'est qu'on espère en tout cas qu'il n'y a pas énormément de fraude, en tout cas sinon il y en a un gros souci. Donc du coup, vu la quantité de données d'apprentissage, on estime que le nombre de fraudes est vraiment minime. Donc du coup, ça n'influe pas tellement finalement dans les modèles statistiques, vu qu'on s'appuie sur des modèles assez traditionnels, du genre gaussien, écart-type, etc. Donc a priori, ça, je pense que le biais doit être assez faible.
À gauche.
Oui, merci pour la présentation. Alors, je rebondis sur la question d'avant. Dans votre phase d'apprentissage, vous aviez des fraudes, mais puisque vous en avez détecté, vous ne refaites pas un passage pour renforcer votre modèle, puisque là, vous êtes en faiblement supervisé à partir du moment où vous avez identifié des attaques.
Oui, oui, c'est pertinent, tout à fait. Ce qu'on apprend donc, sur les vraies fraudes, quand elles sont confirmées, va nous servir à fine-tuner, donc à mettre à jour les algorithmes, finalement, donc tous les paramètres. Donc ça, oui, ça, pour l'instant, ce n'est pas automatisé, mais c'est un travail futur qui, certainement, aurait le mérite d'être regardé.
Vous ne l'avez pas encore fait, parce que ma question subsidiaire, c'était qu'est-ce que vous observez comme différence dans vos algorithmes?
Non, donc on le fait, mais manuellement. Donc c'est des experts fraudes qui revoient manuellement.
D'accord, merci.
Après, si, on a d'autres équipes, bon, pour être vraiment complet, on a d'autres équipes au sein d'Amanous qui travaillent sur d'autres méthodes supervisées, mais pas sur les mêmes données. Donc là, on est sur le fonctionnel, on est vraiment sur comment nos systèmes d'information sont utilisés, vraiment le fonctionnel. Tandis que d'autres équipes ont travaillé sur des mécanismes de détection de fraude supervisés sur les bookings même, donc vraiment sur les réservations. Donc on essaye de combiner les deux, mais c'est pas encore trivial.
Merci Olivier. Donc on va s'arrêter pour votre intervention. Je vous invite donc à prolonger les échanges lors des pauses avec Olivier.